40 nuances de Next.
Les champions de la tech française, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Olivier Mathiot, Thomas Benzazon et Solène Etienne.
Sa boîte a eu 3 vies, on y reviendra. J'ai l'impression que l'entrepreneur qui est avec nous aujourd'hui a également eu 3 vies dans sa boîte. Il l'a développée, il a décidé d'en sortir pour mieux revenir, on l'espère. Bonjour Jonathan Azoulay.
Salut Thomas, salut Olivier.
Olivier
salut Jonathan.
Mathieu est évidemment avec nous une fois de plus. Donc on va creuser ces 3 vies, mais c'est assez bien résumé à la fois côté business et côté perso.
Ouais, c'est une bonne prise de recul.
Tu qualifierais comment ces 3 vies successives pour faire un peu de teasing de ce qui va suivre?
Ben, disons que j'ai eu la chance de créer Talent.io, donc qui est une marketplace de recrutement d'ingénieurs en 2015. On a eu une première vie vraiment centrée autour de l'hypercroissance et d'une aventure assez phénoménale en termes de succès. Une seconde vie avec des changements stratégiques qui a plus secoué, avec des hauts, des bas, des crises. Et une troisième vie qui a démarré à 6 mois, où j'ai repris les rênes de cette boîte avec un virage stratégique et la volonté de créer un vrai avenir post-crise de la tech.
Commence par la toute première vie.
Oui, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de peut-être mettre un peu en perspective ce marché qu'on plaisantait tout à l'heure en prenant un café sur, on appelait ça le Future of Work. C'est vrai que le marché était bousculé. Et à l'époque où tu lançais Talent.io, moi j'étais président de France Digital aussi, et on se posait beaucoup la question du problème des talents. C'est le moment aussi, je crois, que Frédéric Mazzella lançait Reviens Léon, où il disait il faut faire revenir les talents qui étaient tous partis, fuyant l'espèce d'exit en fait, des cerveaux, hein, vers la Silicon Valley notamment et dans d'autres pays. Et donc, il y avait une question de marquer l'attractivité, parce qu'on était, ce qu'on appelait nous, avec Jean-David Chamboredon à l'époque, en taux de chômage négatif. C'est-à-dire qu'il y avait finalement bizarrement beaucoup de chômage chez les jeunes, mais pas assez de jobs à pourvoir dans l'univers de la tech, du développement et globalement du digital. Et donc, comment est-ce que toi, tu dresses le portrait de ce qui s'est passé à l'intérieur de cet espace de marché de HR? On se rappelle, il y avait les premiers job boards, les monsters, etc. Et puis ensuite, ça a évolué. Welcome to the jungle, Talent.io, etc. Enfin, tous les modèles ont évolué. Comment est-ce que tu définirais un peu cette évolution? Et si aujourd'hui, je cherche des talents, qu'est-ce que je dois faire?
Alors, il y a plein de questions intéressantes là-dedans. Mais si tu veux, le marché de l'emploi, il faut savoir qu'à la base, c'était un marché qui n'était pas du tout transparent et qui n'était pas du tout une priorité pour les entreprises. Il faut savoir que nos grands-parents, ils restaient en moyenne 24 ans dans la même entreprise. Tu t'imagines? Alors que là, pour un cadre, ça a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, je crois, la moyenne. Donc, on a changé complètement le rapport à l'entreprise. Et puis, il n'y avait pas de transparence, ça a aidé aussi. C'est-à-dire que si on voulait savoir si on était employable ou si on pouvait trouver un job ailleurs, il fallait répondre à une petite annonce sur un journal. C'était le seul moyen de pouvoir trouver un job. Ce moyen, qui générait beaucoup de revenus d'ailleurs pour les journaux à l'époque, un de leurs principaux canaux de revenus, ce moyen a switché au moment de la première évolution Internet vers les job boards. Les job boards sont en fait vraiment le suivi de ce modèle de petites annonces. Et puis ensuite, il y a eu les modèles communautaires qui sont créés, notamment les réseaux sociaux professionnels, les LinkedIn, qui ont remis une couche de révolution. Et sur les marchés sélectifs, donc c'est le marché des cabinets de recrutement, il y a eu d'autres formes d'innovation comme les plateformes sélectives de recrutement que représente Talent.io et tout un marché. Voilà, donc il y a eu différents niveaux en fait de leviers de croissance et de révolution.
Ça veut dire quoi, plateforme sélective?
En fait, le principe c'était de dire, bon, un job board, n'importe qui peut postuler. Ça résolvait pas le problème de beaucoup d'entreprises qui cherchaient une forme de sélectivité. Et donc, du coup, les cabinets de recrutement, eux, passaient leur temps à faire des entretiens avec des candidats. Nous, on a automatisé une partie de ce modèle, on a créé un algorithme qui permet de faire une première sélection des candidats et on les fait rentrer dans un, dans un funnel, sur une plateforme, dans lesquelles ils vont être contactés seulement au moment où ils sont eux-mêmes disponibles à rechercher un nouveau job et où ils ont été présélectionnés.
C'est pas paradoxal par rapport au métier de chasseur de tête, ou qui va être aussi sur ce... Enfin, qui utilise peut-être Talent IO, tu nous diras, mais qui justement va pouvoir aussi aller chercher des candidats qui sont pas forcément sur le marché, mais qui vont potentiellement leur suggérer l'idée que c'est le moment de changer.
Ouais, en fait, nous aussi, on va les chercher quand ils sont pas forcément sur le marché. Mais par contre, on les rend visibles que quand ils le sont. Si tu veux, le gros problème, c'est que tu peux contacter les candidats se font contacter n'importe quand par des entreprises, sur LinkedIn ou par d'autres moyens. Ils vont pas forcément savoir s'ils doivent répondre, s'ils doivent pas répondre, ils vont avoir des problèmes à la prise de décision. Alors que quand tu les mets dans un funnel clair, c'est-à-dire à un moment précis, tu vas leur proposer dans la même semaine 5 à 10 offres d'emploi parfaitement ciblées, alors là, ils vont rentrer dans un processus qui va avoir un but. Et ça marche beaucoup mieux.
C'est clair.
Le secret de Talent.
Donc toujours sur cette première vie de Talent, vous allez lever, je crois, en 2015, 2017. Tu vas être trois fois de suite, d'ailleurs, dans la foulée OFT 120. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on a le plaisir de te recevoir aujourd'hui. Comment tu gères cette croissance, voire cette hyper-croissance?
Je la gère avec un beau sourire.
Je peux témoigner, j'ai toujours connu Jonathan avec la pêche et l'énergie. Dans toutes les réunions dans lesquelles il intervient, il amène cette dynamique incroyable.
C'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Écoute, je la découvre. Si tu veux, avant de monter Talent, j'ai monté une boîte de recrutement qui a bien fonctionné aussi, que j'ai revendue en 2018.
Mais, vous nous rappelez comment elle s'appelait?
Elle s'appelait Urban Linker.
Ah oui, bien sûr, Urban Linker, je l'avais pas oublié.
Voilà, et en fait, si tu veux, de passer d'un modèle de service à un modèle produit, j'ai beaucoup apprécié ce switch-là. C'était dur, hein, ça a été plein de questions. Quand on me posait la question de ce switch, j'essayais d'expliquer simplement en disant c'est comme si j'avais un taxi G7 et que là, j'essayais de monter Uber. J'essayais de monter mon propre concurrent technologique. Donc, il y avait plein de questions qui se posaient autour de ça.
Comme ?
Est-ce que ça doit être une filiale ? Est-ce qu'elle doit être reliée ? Est-ce qu'on peut transformer un marché sans prendre le risque de perdre son asset existant ? Toutes ces choses-là. Moi, j'étais persuadé que c'était pas possible de relier tout ça. C'est une des décisions où je suis le plus content, c'est d'avoir fait deux projets séparés et d'avoir accepté réellement de couper le cordon.
L'enjeu, c'était de pouvoir... T'as vendu Urban Linker, c'était de projeter Talent pour faire une session également sur le même principe, mais sur un produit.
L'enjeu, c'était de pouvoir cette fois-ci révolutionner un marché. Parce que quand on a une boîte de service, on n'essaie pas de révolutionner, on essaie de grossir de manière organique ou la plupart du temps, on essaie d'optimiser son modèle. Là, Talent, il y avait une ambition qui était évidemment tout autre, quoi.
Et est-ce que on parle beaucoup des métiers tech, et donc quel est le spectre que tu couvres? Et est-ce qu'il y a quelques chiffres que tu peux nous partager sur le marché, savoir où on en est, combien de talents il nous manque parmi tous ceux que toi tu adresses?
En fait, si tu veux, le marché de l'ICT en Europe, c'est globalement l'IT au sens large, c'est à peu près 7 millions de jobs pour 6 millions de profils. Donc c'est un marché qui est important.
Donc il manque 1 million de personnes pour remplir les jobs.
Ouais, et ça j'ai pas les chiffres récents de la crise actuelle, enfin de la situation actuelle qui ont dû peut-être bouleverser le truc, mais
on parle tout job confondu, pardon, juste pour
tech, IT.
IT.
ICT, c'est IT et tout ce qui est relatif à l'IT. Donc chef de projet aussi, etc. dans le secteur. Et en fait, si tu veux, ce marché, il avait une tension relativement raisonnable jusqu'au Covid. Il y a eu une extrême montée de la demande, mais qui a réussi à être compensée relativement rapidement grâce au bootcamp. C'est-à-dire que si on avait dû compter sur les formations en 5 ans pour compenser très vite cette demande-là, il y aurait eu une faille et une tension qui serait devenue trop grande. Malgré cela, il y a eu un marché qui a évolué en 2021 et 2022, qui a été complètement bouleversé déjà par les changements de ce que tu appelais le future of work, donc le remote, l'hybride, les gens qui commençaient à recruter un peu partout. On se demandait si tous les meilleurs allaient partir bosser pour la Silicon Valley en restant de chez eux ici, ou pas? Est-ce qu'on allait recruter à l'étranger? Est-ce que le marché qui était un marché local allait devenir global?
Et est-ce que le marché du freelancing a explosé à ce moment-là, ou c'est quelque chose qui a toujours existé? Parce que ça correspond aussi à la démonstration d'une tension, c'est-à-dire la possibilité que quelqu'un qui a du talent peut gagner peut-être plus et être plus flexible en n'étant pas salarié.
Oui, il a toujours existé, il a beaucoup grossi ces 10 dernières années, donc c'est devenu un vrai modèle. Je ne suis pas sûr que ce soit pour des raisons financières qu'il soit devenu un modèle aussi important, parce que en vrai, les écarts, ils sont pas énormes. Je pense plutôt que le sujet de la flexibilité, il a beaucoup joué.
D'accord.
On va arriver à un moment, c'est la deuxième vie de la boîte, où pour diverses raisons, tu vas décider de te retirer opérationnellement. Comment on prend une telle décision et pourquoi on la prend ?
Ben, 2020, j'ai eu une année charnière, comme on a pu un peu en discuter. J'ai géré une crise Covid. J'ai, pour l'entreprise, où day one, on a fait moins 70% de CA. Donc il y a eu une gestion là-dessus. 170 salariés dans 5 pays. Ensuite, voilà, il y a eu des événements personnels heureux qui m'ont permis aussi de me demander, m'aider à me poser la question de où j'en étais dans la vie.
Tu vas devenir père.
Voilà, je deviens un papa, je fête mes 40 ans. Donc bon, plein de paramètres qui me font dire, ok, est-ce que j'ai encore, est-ce que j'en ai assez dans le ventre là pour la prochaine étape? Donc du coup, fin 2020, on s'assoit avec mes associés, on écrit notre plan 2021. Et là, je leur propose qu'on réorganise le COMEX et que je me concentre uniquement pour les années qui viennent sur le board.
C'est facile à prendre comme décision.
Non, c'est pas facile à prendre, surtout quand t'as été très très actif pendant 15-20 ans, mais je sais pas, j'avais eu cette décision, je la sentais parce que déjà j'avais la sensation que ça faisait longtemps que je me disais voilà, j'ai quand même pour but de pouvoir prendre du temps pour moi à un moment ou à un autre. Je savais pas trop comment j'allais le vivre, on peut en parler après, tu vois, parce que c'est un vrai sujet. Je pense même que c'est un tabou d'entrepreneur, il y en a très peu qui parlent de comment ils ont vécu ces phases-là. Je savais pas encore si j'allais m'arrêter complètement ou si j'allais faire une pause. J'avais pas encore ces infos-là. Ce que je savais, c'est que j'avais envie de prendre plus de temps pour moi et que dans mon quotidien, je prenais moins de plaisir au travail.
Et quelles étaient les tâches que tu aimais faire en particulier avant de prendre un peu de recul? Est-ce que c'était plutôt commercial, le recrutement justement, pour vous-même, ou d'autres tâches plus stratégiques, financières?
Non, moi j'ai toujours aimé la partie business. Me retrouver à suivre un sales pour closer un très grand compte, ça a toujours été un truc qui me plaisait. Mais en même temps, voilà, j'ai vu la boîte grossir, on se retrouvait voilà, près de 200 personnes, les décisions commençaient à être plus longues, les process aussi, et voilà, ça n'allait pas à ce moment-là de ma vie.
On parle beaucoup de la quête de sens pour les collaborateurs et comment on arrive à insuffler ce sens chez tout le monde. C'est vrai qu'on parle moins du sens et du plaisir pour le dirigeant. Je veux bien qu'on reste sur ce sujet, mais qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui fait que tu te rends compte que tu as moins de plaisir ou au fil du temps, à un moment, tu te poses? Peut-être la quarantaine aidant, peut-être le fait de devenir père aidant, c'est le moment des bilans hein, souvent, où tu dis... Je m'y retrouve moins. Je m'étais peut-être promis un moment d'avoir cette liberté au point d'avoir plus de temps pour moi et je ne l'ai pas.
Ouais, je pense que déjà, il y a une question, est-ce que tu as assouvi ce que tu cherchais à faire? Donc, j'étais à l'aise avec ce qu'on avait réussi à développer en termes d'ambition. Et puis, il y a ce truc que j'avais lu aussi, Steve Jobs disait ça, c'est que quand plusieurs jours, plusieurs mois d'affilée, tu vois qu'il y a un truc qui t'empêche d'apprécier ton quotidien, il faut changer quelque chose.
Et là, c'était quoi?
Ben, je pense qu'au niveau professionnel, j'arrivais plus à avoir le même plaisir que j'avais pu avoir dans les débuts de la boîte. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être le moment de se tester, en fait.
Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'on peut aborder la question financière sans tabou? Est-ce que cette question-là, à quel moment dans ta vie, d'ailleurs, que ce soit d'ailleurs... pas forcément enfin avec des entreprises précédentes ou autre, à quel moment tu la considères comme un critère de choix aussi parmi toutes les leviers que tu peux actionner. Hein. Bon, y a le quotidien, l'équilibre avec la vie familiale, le besoin de prendre du recul, ce que tu aimes faire ou pas. Et puis, est-ce que le niveau patrimonial ou de revenus, d'ailleurs, fait partie aussi de tes critères et comment?
Ouais, c'en est un. En fait, donc en 2018, j'ai vendu Urban. Du coup, ça m'a fait tout de suite changer de situation patrimoniale. Après, c'est très flou cette question. J'ai parlé à plein de monde qui ont vendu leur boîte. Tout le monde a une image différente du montant qui correspond à la sécurité.
Restons sur toi, c'était quoi la sécurité? C'était quoi pour toi la sécurité justement?
Le montant? Ouais. Mais ça c'est personnel si tu veux, mais il y en a pour qui c'est 5 millions, il y en a pour qui c'est 10, il y en a pour qui c'est 50. Il y en a même à 50, ils se sentent pas en sécurité. J'en connais. Donc, si tu veux, c'est très perso en fait. La question c'est est-ce qu'à un moment tu sais que tu vas pouvoir être à l'aise intérieurement sans avoir à continuer à courir après cette génération de revenus. Et j'avais l'impression que ça pouvait être mon cas.
Ouais.
Donc j'ai essayé d'explorer cette façon de vivre.
Comment t'annonces à tes associés justement que t'as envie de cette prise de recul? J'imagine bien que c'est une discussion, tu l'as dit, très stratégique, mais aussi très personnelle. Et c'est vrai que souvent, il peut y avoir des désalignements d'envie, d'ambition à un instant T entre des associés, au-delà du fait que humainement, on peut se comprendre et comprendre pourquoi.
Ouais, en fait, déjà, j'ai un respect immense pour mes associés. C'est deux des personnes les plus intelligentes que je connaisse. En plus, on vient d'univers complètement différent. Quand on s'est rencontrés, eux avaient fait toute leur carrière dans la Silicon Valley, avaient fait Stanford, un des deux a fait Polytechnique. C'est des profils qui sont très différents de moi, puisque moi, je suis j'ai un cursus universitaire assez basique, j'ai pas fini mon master, j'ai un profil plus autodidacte, on dirait, par rapport à eux en tout cas. Donc j'ai toujours eu un vrai respect pour eux. Après, on avait la tête dans le guidon à ce moment-là. Et vraiment, ça s'arrêtait pas, quoi. Opérationnellement, on était sous l'eau. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas pour cette entreprise. Et c'était quelque chose... c'était la big picture qui n'allait pas. C'était la stratégie. C'était le board. C'était les moyens d'insuffler. Une vision des opportunités, ça je le voyais pas, et donc je leur ai proposé qu'on restructure le COMEX et que j'insuffle un peu plus sur le board. Je voyais passer des trains, je sais pas si ça vous est déjà, c'était déjà arrivé, Olivier, mais parfois je voyais des news dans la presse, des opérations qui sont créées, des rachats, des choses comme ça.
J'ai dit, attends, dans ton domaine?
Dans mon domaine, ouais. J'ai dit, mais attends, mais ça aurait dû être pour nous, ça.
Ah oui, c'est vrai qu'il faut avoir un peu de recul, et ça peut être le rôle du CEO ou du chairman, effectivement, de le faire. Il y a eu des moments où le board nous a incités à voir les choses différemment et à dire c'est le moment de faire du build-up, par exemple. Alors qu'on était le nez dans le guidon à lancer un nouveau pays, donc ça peut être un nouveau focus, oui.
Exactement. Et j'ai senti que si je prenais pas un peu de recul là-dessus, je repartais pour encore une année de plus ou plusieurs années de plus, la tête dans le guidon, à gérer les problèmes opérationnels.
Est-ce que ça t'est arrivé aussi de changer ton board, du coup, la composition du board pour... amener du sang frais, enfin des idées nouvelles, etc.
Non, je l'ai pas fait. Je pense qu'on a sous-performé au niveau de l'exploitation du board, mais on avait des gens de grande qualité autour. On a trois fonds plus trois fondateurs. Je pense que c'est bien d'avoir
quels
des personnes indépendantes. C'est Alven en lead, Elaya et Ventec.
D'accord, des belles marques françaises.
Des très belles marques, des très beaux fonds. On est très contents qu'ils nous aient soutenus pendant toutes ces années. Mais effectivement...
C'est quoi exploiter à fond son board?
Je pense qu'il y a une question déjà de transparence, que tu as vraiment envie. Mais pas de transparence des chiffres. Enfin, si tu fais ton job, tu es censé être transparent sur tes chiffres. Mais de transparence sincère. Est-ce que réellement, c'est ton équipe? Ou est-ce que c'est des gens qui... ont des intérêts pas forcément alignés, notamment dans le moment où tu vas devoir relever des fonds, etc. etc. Il y a une vraie question là-dessus qui est profonde. Et je pense qu'au départ, on avait une approche un peu plus précautionneuse de la relation. Ça l'empêche de l'exploiter à fond.
Est-ce que dans la bonne gestion d'un board, tu aurais des recommandations du coup à faire? Ça, c'est un sujet qui nous vient souvent. Moi, aujourd'hui, que je suis devenu VC, enfin, donc investisseur, on insiste beaucoup sur la présence de board members indépendants, supplémentaires, un ou deux, selon surtout essayer de garder un nombre impair dans le board pour pouvoir, en cas de vote, pouvoir s'assurer trancher, que la gouvernance soit opérationnelle, même si en réalité, on vote jamais rien dans un board, enfin, ou alors vraiment en cas de crise. Mais c'est toujours intéressant, enfin, en tout cas, je pense, mais ça, je voulais avoir ton avis là-dessus. Sur le fait qu'il puisse y avoir des board members indépendants, selon la taille du board, il peut y en avoir un choisi par les investisseurs et un choisi par les fondateurs, ou un seul sur lequel ils se mettent d'accord. Est-ce que toi tu as ça ou est-ce que tu as une opinion ?
Non, on n'a pas ça. On est 7 parce qu'on a fait entrer un CEO, donc 3 fondateurs, une CEO et un qui était notre ancienne CFO, et 3 fonds, donc on est uniquement interne. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est bien d'intégrer des gens en plus. J'aurais tendance à dire que quand on intègre des gens en plus, moi-même je suis au board de différentes boîtes,
ouais.
On apporte un œil différent. Idéalement, j'aime l'idée d'intégrer des personnes qui sont expertes du secteur en question, métier.
Oui, mais potentiellement avec une compétence complémentaire qui peut être le déploiement international ou qui peut être, je sais pas, la scalabilité dans ton secteur, mais effectivement avec un lien potentiellement qui répond à un besoin.
Ouais. On peut le voir comme ça. J'imagine plus qu'avoir un nez métier, une expérience métier pour ressentir la strat va avoir un intérêt pour le marché. Je pense que c'est l'élément numéro un.
Je reste sur cette deuxième phase de vie. Ça consiste en quoi, du coup, ton rôle quotidien pour la boîte, pour Talent ?
Au moment où on a switché,
ouais.
Il n'y en avait plus.
Plus du tout.
Il n'y en avait plus. Quotidiennement, non. J'avais quand même quelques C-levels qui m'appelaient par-ci, par-là. Et puis, je me retrouvais donc à un board tous les 2 mois et demi.
Alors bon, tu as déjà vendu ta boîte. Mais c'est vrai que souvent, quand on part de la boîte, il y a un effet de vide. L'agenda est moins rempli. Le téléphone sonne moins. Le statut social, si on l'appelle comme ça, bah, c'est plus le même. Et tout le monde le vit pas bien.
Ouais, c'est compliqué. En fait, c'est pas facile d'appréhender cette période-là.
C'est-à-dire, c'est la liberté, mais en fait...
Ouais. C'est bizarre parce que, en fait, je sais pas, moi, enfin, je suppose que c'est la même chose comme pas mal certains entrepreneurs. Moi, j'avais pour but d'arrêter de travailler. Je veux dire, m'arrêter... C'était un concept que j'avais depuis petit. S'arrêter à 40 ans, ce qui s'est passé pour moi.
D'où le lien un peu avec les questions patrimoniales et l'argent, parce que c'est vrai que c'est quand même aussi l'argent.
Exactement.
Qui permet de s'arrêter, de donner la liberté, quel que soit le niveau. On peut vivre chichement, mais il faut quand même une forme de sécurité, à minima, si on a des enfants.
Exactement, avec en plus la forme de vie que tu veux au quotidien, quoi. Donc s'arrêter, c'est aussi garder le niveau de vie que tu as.
Donc mais, ça, c'est un goal.
Mais non, c'est quelque chose... Voilà, t'as un goal, et puis t'arrives, t'es dedans... tu te rends compte qu'entre le goal en soi et l'équilibre de vie que tu as besoin pour être bien, ben là, ça ne matche pas forcément.
Il y a un gap.
Il y a un gap. Donc, faut avoir le temps de comprendre ce qui se passe en toi, et puis de savoir profiter aussi du moment, d'imaginer comment tu vas te recréer cet équilibre de vie. Donc, moi, j'ai beaucoup voyagé avec ma femme, avec ma fille. On a fait pas mal de trucs, je me suis intéressé à plein de domaines. Mon cerveau, j'ai eu l'impression que mon cerveau s'est réouvert aussi. C'est comme si, quand on bosse beaucoup d'années comme ça, sous pression, avec énormément de travail, t'as un cerveau qui devient mono...
ultra focus.
Ouais, t'es focus, quoi.
Tu deviens très bon, mais effectivement, sur des sujets un peu en silo, quoi.
Mais bien sûr, mais c'est un truc de fou. Moi, je me suis rendu compte, après, donc dans la période où j'étais plus tranquille, je me suis rendu compte qu'avant, je pouvais pas parler à quelqu'un plus de 10 ou 20 minutes si ça ne touchait pas un
de
mes
près.
Sujets de près, parce que sinon je perdais la concentration.
Ouais.
Tu vois, je n'écoutais même plus.
C'est très intéressant, ouais.
C'est quand même fou.
Avec ça,
fou.
Une
et pourtant,
ouais.
J'espère ne pas être quelqu'un de mono, tu vois, qui ramène tout sur soi, mais je me suis rendu compte que mon cerveau avait du mal à s'évader dans sa créativité, dans différents domaines. Tu vois, que je pouvais appréhender. Je me suis retrouvé même pendant cette période à rappeler des gens que j'avais trouvé inspirants pendant, voilà, dans ma vie, mais à qui j'avais pas eu le temps de discuter. voilà, tu as la possibilité de faire marcher ton cerveau sur une autre forme et de relancer ta créativité, c'est pas mal.
Et quels sont les univers sur lesquels tu avais une frustration que tu avais mis un peu de côté?
Bah franchement, vivre en général, tu vois, c'est une ouverture. Je me suis vachement intéressé à l'art, à plein de sports, au voyage, aux gens. J'ai aidé des amis qui étaient un peu dans des situations un peu plus compliquées, tu vois. Ce genre de choses que tu peux pas vraiment faire, ou du moins t'as pas la tête pour ça quand t'es dans ton marathon entrepreneurial.
Et pourtant, à un moment, la décision de revenir va se présenter.
Ouais. Alors, pour la comprendre, il faut que je vous explique un peu plus. Donc, si vous voulez, 2015-2020, Talent, très très belle hypercroissance, leader européen sur son secteur, 5 pays, 150-170 salariés. Et puis, on a fait à ce moment-là des choix stratégiques que je remets en cause maintenant avec le recul. Des choix stratégiques, des erreurs stratégiques que beaucoup ont fait d'ailleurs pendant cette période.
C'est-à-dire et que tu peux développer ici pour qu'on comprenne.
Ouais, en fait, si tu veux, on a créé Talent dans une seule optique, c'est permettre à nos deux communautés, donc les candidats, les clients, d'avoir une expérience de recrutement qui soit 1000 fois meilleure que celle qu'ils ont aujourd'hui. Donc l'expérience client, l'expérience candidat était le seul mantra qui nous a permis de construire notre modèle. Sauf que quand ça marche tellement bien, qu'on fait des boards tous les 3 mois et qu'on discute avec des entrepreneurs, ben peu à peu, on me dit non, mais le modèle, il pourrait quand même être plus scalable. Et qu'il y a le mot de la scalabilité qui rentre dans le truc. La rétention, elle pourrait être plus forte. La rétention qui rentre dans le truc. Et peu à peu, ces mots-là, ben, ils remplacent, quand tu as une décision à prendre, tu es autour d'une table, d'un projet, ben, ces mots-là remplacent.
Ils prennent le dessus
sur l'expérience. La priorité sur le sujet de l'expérience. Et donc, du coup, ben, c'est comme ça que peu à peu, on a automatisé notre modèle. Pour rendre le truc plus scalable. On a trouvé des méthodes d'acquisition aussi complètement automatisées. On a lancé des modèles SaaS au lieu d'utiliser notre modèle marketplace parce que, voilà, pour les mêmes raisons. Et quand on fait ça, peu à peu, l'expérience client, elle vacille. Et on s'en est pas rendu compte parce que, enfin, opérationnellement, ils s'en ont pas vraiment rendu compte parce que pendant les 2021-2022, le marché du recrutement était tellement explosif. Je veux dire que il était tellement explosif.
Et tu peux perdre des clients, mais si t'en gagnes deux à côté, tu te rends pas forcément compte.
Mais tu les perds même pas. Parce que de toute façon, ils ont pas le choix. Je veux dire, c'est tellement la galère, le marché, il y avait une telle tension de recrutement. Il y avait pas de candidats par rapport. Le volume de demande client était si fort. Nous-mêmes, on était obligés de limiter le nombre de clients pour être sûr, parce que les candidats, parfois, ils recevaient 30 offres sur la plateforme. Ça n'avait plus de sens. Donc du coup, voilà, on a le marché qui marchait si bien faisait qu'on voyait pas trop, et puis crise de la tech à partir d'été 2022, et là, t'as la vérité qui tombe, quoi, t'as le jugement. C'était un peu ça, cette deuxième phase.
Et donc toi, tu suis ça au départ de loin, parce que là, on refait le match après coup, et la compréhension qui est intéressante, mais jusque-là, vous ne voyez pas ces signaux faibles qui commencent à prendre pourtant de la place. Et il va y avoir la révélation des chiffres, et là.
Et là, tu vois que tu as un marché. Bon, les crises, tu veux, dans le recrutement, il y en a. À chaque fois qu'il y a une crise, le recrutement, il prend ultra cher. C'est cyclique, c'est un marché cyclique. Les investisseurs le savent, tout le monde le sait. Enfin, tous ceux qui connaissent ce secteur le savent. C'est le premier marché qui se casse la gueule. Et c'est aussi souvent le premier qui remonte. Donc, c'est un marché assez, qui démontre un peu les tendances de marché. Pourquoi je te disais ça, Thomas?
Eh ben,
parler des chiffres de oui, Talent.io. À quel moment tu as eu un déclic autour des chiffres qui ont fait que tu t'es dit qu'il fallait
I'm back.
qu'il fallait me remettre ouais, en selle, ouais. Te remettre en selle.
Bah disons que ça a dégringolé très vite. Il y a eu un des premiers plans de départ, etc. Et je m'en rappelle, c'est un board en janvier dernier, en janvier 2023, où je suis rentré chez moi et je me suis dit là, il y a un vrai risque en fait. Il y a 6 mois, on avait une boîte qui était un fleuron de la tech française. Qui était rentable, avec qui ça se passait très bien. Et là, on a un risque de
survie,
de faillite, quoi. Ouais, il y a un risque, je le vois. Il n'est pas devant nous, mais il y a un mur quand même. Et donc là, quand tu commences à te poser cette question-là, tu dis oh, c'est chaud. Et je commence à recontacter quelques C-level, discuter avec mes associés. Et puis, avec ces discussions, je commence à écrire un plan de relance. Parce que je me rends compte que le marché, il bouge.
Moi, je suis à la base. Est-ce que tu as identifié qu'il y avait du coup des tensions au sein des équipes?
J'ai
Des divergences de vues, ou qui peuvent être parfois des interpersonnelles, ou juste des façons de voir les choses différentes.
J'ai identifié des tensions, mais j'ai surtout identifié que la boîte était un peu sclérosée dans sa capacité de prise de décision. Comme beaucoup de boîtes qui ont prôné pendant cette grande époque le modèle participatif, c'est un modèle qui est compliqué en temps de crise.
Ouais.
Très compliqué. Et là, tu sentais que c'était sclérosé.
C'est-à-dire la recherche de consensus plutôt que de décision claire, c'est ça?
Exactement. Mais surtout quand il faut faire des virages très rapides parce qu'on est en crise. Quand on est en crise, les métriques, la data, elle dit plus du tout la même chose. Elle dit des choses totalement incohérentes. Je veux dire, il y a plus aucun repère. Donc si t'as pas une personne à la tête qui a une vision, une seule,
bonne ou mauvaise,
et que tout le monde accepte de suivre, alors une gestion de crise, c'est très problématique. Et donc, du coup, j'ai commencé à discuter avec quelques C-level, avec mes associés. J'ai commencé à écrire comme ça un plan de relance parce que moi, à la base, je pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Moi, je suis ce qu'on appelle un expert. C'est-à-dire que c'est le marché du recrutement. Tu m'en as déjà parlé, Olivier. Moi, c'est mon truc. Et j'ai fait que ça dans ma vie. Par hasard, mon premier job, j'ai trouvé dans le recrutement. Ben, je suis resté là-dedans.
Pause. Sinon, si je laisse passer le train, tu parlais des trains tout à l'heure, je pense que ce sera trop tard.
Vous avez un message.
Mon cher John, la question que je voudrais te poser, c'est savoir comment tu te définis en tant qu'entrepreneur et quelle typologie d'entrepreneur tu es selon toi.
Commencer à l'aborder.
Ah bah c'est donc exactement c'est... ça, tu as bien chauffé. T'as entendu la voix de qui c'est?
Non, j'ai pas reconnu
cette équipe. C'est Jean.
Ah, c'est Jean.
Il y avait un peu de fonctionnaire, il était peut-être sur un kite.
Écoute, ben voilà, j'étais en train d'y répondre. Je pense que je suis dans la catégorie des experts. Je suis pas dans la catégorie des analystes, des consultants, je sais pas si je suis un visionnaire, mais en tout cas, voilà, je connais un marché, je sais comment il fonctionne, je sais ce que les gens attendent, je sais ce qui va pas, ce qui est cassé, et ça fait 15 ans que je le sonde. J'ai vu être révolutionné, ben notamment par nos modèles, mais j'ai vu aussi la crise Covid, ce que ça a généré, le future of work, donc le passage à l'hybride, le RIM, etc., ce que ça a généré. Et là, je vois que la crise de la tech, elle génère encore une transformation supplémentaire. Quel impact elle a sur l'innovation? Quelles sont les attentes des entreprises pour pouvoir être efficaces maintenant sur un sujet du recrutement qui est plus un sujet qui est secondaire, qui est un sujet totalement héroïste comme n'importe quelle autre branche de l'entreprise? Et donc voilà, j'ai exploité
ce ressenti
j'ai pour réécrire un plan de relance, donc printemps 2022, donc il y a, printemps 2023, et voir ce qu'on peut faire. Et effectivement, la crise s'aggrave, et là, le board et mes associés donc, me proposent de reprendre la tête de l'entreprise. En parallèle, je fais une levée de fonds pour m'assurer qu'on va avoir le temps de pouvoir mettre en place le plan. Et donc, à partir du 1er juillet 2023, j'annonce à l'entreprise que je reprends les rênes et j'annonce mon nouveau plan.
Ça m'amène à deux questions. La première, c'est que quand on part, potentiellement, on n'est plus attendu, parce que moins présent, parce que certains aussi ont pris de la place. Là, c'est tes associés et ton board qui viennent te rechercher. T'avais quand même déjà eu ces échanges avec eux au préalable, ou ça c'était une surprise?
Non, ben, je sais pas, ça s'est fait naturellement. J'ai pas le sentiment. Ils ont vu que je me suis intéressé au problème, que j'ai essayé de trouver une solution. Je suis arrivé avec une solution. Ça semblait logique pour tout le monde de la.
Donc on y va.
De la mettre en place, ouais.
Et ça m'amène à la seconde question, une question qu'on avait posée à Eric Carrel, Olivier, sur l'annonce.
La
dualité des deux annonces aux équipes, celle où tu te dis que tu t'en vas, j'aime bien que tu y reviennes, et celle où tu leur annonces.
Est-ce que tu te rappelles tes deux, je sais pas si c'est sous forme de speech.
Je me rappelle très bien, ouais.
Et est-ce que tu peux nous retranscrire l'ambiance et ce que tu as ressenti à ces deux moments-là?
Celle où je m'en vais, je l'ai minimisée à fond. Je voulais en faire un non-sujet pour l'entreprise, comme si c'était juste un changement de d'organigramme, mais qui n'aurait pas d'impact sur eux. Je me demande même si je leur ai dit tout de suite que je sortais des opérations ou si je me suis pas juste un peu isolé sur l'organigramme. Tu vois, vraiment pour en faire un non-sujet.
Donc il n'y a pas eu d'annonce.
Il y avait quand même la nomination de nouvelle CEO.
Oui, mais ça s'est fait en plusieurs temps. Le COMEX, on a mis plusieurs mois à le remodeler.
D'accord.
Donc on l'a fait. Et puis, si tu veux, avant mon départ, avant 2020, la notion de CEO, elle n'était pas très claire dans notre boîte. On était trois associés. On n'avait pas encore fait ce gros switch-là.
D'accord.
Donc, pour les salariés, on était les founders.
D'accord. Oui, bien sûr.
Je reste sur cette première annonce, pardon. Il y a cette idée de minimiser parce que il y a une forme de culpabilité de laisser le navire, ou et ça peut être les deux d'ailleurs, ou cette idée de n'en faisons pas un sujet parce que d'abord pensons pour la boîte et donc ne générons pas de questions non nécessaires dans la tête des collabs.
Ah, clairement, c'était pour la boîte. En fait, à la base, j'avais écrit un truc que je comptais dire donc pendant une de mes presses. Et puis après, en le relisant dans ma tête plus tard, je me suis dit, mais pourquoi j'en fais toute une histoire? Il y avait des phrases...
Des grandes
phrases, tu vois. Non, on n'en fait pas d'histoire, c'est pas un sujet. Et du coup, je l'ai tourné d'une autre manière. Le retour, ça a été très différent. Parce que je l'ai fait en plusieurs fois. Donc, on a eu la discussion avec le board. Ensuite, j'ai fait une annonce que aux managers de l'équipe. Une douzaine, quinzaine de managers. Et ensuite, une annonce à toute la boîte.
Et tu peux la décrire ?
Écoute, j'ai donné mon plan. J'ai expliqué que j'arrivais en plus financièrement en remettant la boîte dans une situation qui nous permettait de voir plus loin et de préparer une seconde vie. Je leur ai donné une direction. Donc je pense que tout ça, c'était positif. Après, il y a deux, trois trucs que je n'avais pas imaginé. C'est que, un, ben, les trois quarts des gens ne me connaissaient pas, en fait. En fait, entre le moment...
J'ai peut-être entendu parler de toi, mais...
Il est gentil, lui, mais c'est qui
Tu ne les connaissais pas par leur prénom non plus.
Entre le moment où je suis parti, le moment où je suis revenu, évidemment, ce n'étaient pas les mêmes personnes. Eux, ils venaient de se prendre une crise un peu dans la tête, donc il n'y avait pas aussi le même niveau d'énergie. Et en plus, j'ai eu la bonne idée au moment où j'ai déroulé mon plan, j'ai eu aussi la bonne idée de dire qu'on allait changer de politique de remote. On allait passer d'une politique remote first, donc c'est-à-dire où les gens venaient quand ils voulaient au bureau, à une politique en partie présentielle, avec un minimum de 3 jours au bureau. Et ça, forcément, ben, les gens se concentrent.
Ça frotte.
Ça impacte énormément la vie des gens, ce que je comprends. Et du coup, ça impacte aussi le reste de ton message. Les gens ont tendance à se focaliser d'abord uniquement là-dessus.
Sur ce qui va changer pour eux.
Exactement. Ensuite, il a fallu plusieurs mois pour qu'on crée des liens, qu'on voit le travail, qu'on effectue ensemble, etc.
Est-ce qu'il y avait un travail à faire qui peut te sembler important ou pas sur la culture d'entreprise elle-même?
Ouais, il y en avait un. Alors pourtant, j'ai toujours été un fan de la culture d'entreprise, mais si tu veux, je pense qu'on s'est un peu tous floués. Après, c'est très personnel, la culture d'entreprise. Ça dépend. C'est très personnel pour les.
C'est-à-dire
pour
que
les
ça CEO. Peut être un peu bullshit parfois, donc du coup, il faut en faire quelque chose.
Mais c'est pas
intéressant de fédérateur.
Mais en fait, c'est que on a fait un truc. La plupart des boîtes de la tech ces dernières années, avant la crise de la tech, ont fait une culture centrée autour de l'épanouissement, autour de le psychological safety. Et ce modèle, il a des avantages, il a des inconvénients, mais en tout cas, en période de crise, ce modèle, moi, je suis persuadé qu'il ne fonctionne pas. Il faut un modèle beaucoup plus straightforward, beaucoup moins participatif, beaucoup plus engageant. Et je pense que c'est assez dur de trouver de l'engagement, de la motivation quand on est sur un modèle plus participatif en format de crise.
Comment tu le vends, ça, aux équipes? Parce qu'en face, il reste la concurrence et tout le monde n'a pas fait ce move.
Ouais.
Donc, c'est faut convaincre.
Faut convaincre, faut être prêt à ce que ça colle pas, et faut le faire avec finesse. Je veux dire, franchement, je sais pas si vous avez lu la bio d'Elon Musk. Moi, je suis en train de la finir, mais si tu veux, le rachat de Twitter, c'est pour moi le cas de toute l'histoire moderne. Il n'y a jamais eu un cas de clash culturel aussi fort. d'un mec qui a la culture de l'engagement, son mot-clé, c'est hardcore à ce gars. Qui rachète une boîte qui était une boîte totalement démocrate, progressiste, limite woke dans plusieurs aspects, avec une culture d'entreprise à l'opposé.
De la sienne.
Ouais. Voilà. Je pense qu'arriver de manière frontale comme il l'a fait, ben, c'est catastrophique. Et c'est ce qui s'est passé. La boîte, elle est passée de 8000 à 2000 salariés en un mois et demi entre les gens qui sont barrés, les catastrophes dans tous les sens. Donc, on ne peut pas radicalement changer une culture entreprise de manière aussi frontale. Je pense que c'est impossible. Par contre, la faire évoluer, expliquer les raisons, prendre le temps, quand ça a du sens, ben, ouais, j'y crois.
Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi quel type de manager tu es. Parce que moi, bah, je peux te croiser dans des cadres France Digital, des trucs où on boit des cocktails et tu as toujours cette pêche, etc. Pour moi, il y a une typologie de manager que j'ai en tête, mais qui parfois est un peu binaire, et d'ailleurs sans jugement. Mais le fait que tu parles d'Elon Musk m'a fait penser à ce point-là, hein, qu'on dit parfois de Steve Jobs ou d'Elon Musk, on a des idées, ou Jeff Bezos, d'une façon de manager. Mais il y en a d'autres. Tu vois, il y en a qui sont vraiment plutôt dans l'empathie, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont juste dans la justesse, dans la performance, dans l'inscription de la vision pour fédérer, etc. Est-ce que tu arrives à qualifier, si tu devais faire un peu un mapping de tes qualités de manager?
Je pense que moi, je me suis toujours épanoui sur la version coach du manager. Tu vois, limite coach sportif, quoi. J'aime avoir une relation privilégiée avec les personnes que je manage dans l'optique de leur faire atteindre quelque chose. J'adore me retourner, genre quand il y a des gens qui sont partis de la boîte 3-4 ans après, je me dis, j'adore me rappeler comment ils étaient quand ils sont arrivés et comment ils sont quand ils partent. J'aime ce principe-là. J'essaie de les faire grandir au maximum là-dessus. Il y a des gens, j'essaie de prendre en compte les différents cas. Il y a des gens qui ont besoin d'être protégés des environnements. Et c'est des perles, mais ils ont besoin de protection. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être face à l'adversité. J'essaie de m'adapter en fonction de ces cas-là.
C'est quoi s'adapter? C'est les missions que tu leur donnes, la manière dont tu leur présentes?
Ouais, c'est la manière dont je leur parle, la manière dont je leur dis ce que j'attends d'eux. J'ai ce truc-là. Après, j'ai besoin, moi, pour être un bon manager, sincèrement, après, c'est peut-être pas cool pour d'autres, mais j'ai besoin d'être avec des gens auxquels je crois vraiment, quoi. Si je crois pas en eux, ils m'apporteront pas l'énergie que j'ai besoin pour être un bon manager, et je préfère organiser d'une autre manière.
Et dans les cas où ça se passe un peu moins bien, justement, comment se comporte le coach dans ce cas-là? Si, par exemple, tu dois aller jusqu'à parfois te séparer de quelqu'un ou peut-être dans des premières étapes, pouvoir le recadrer, est-ce que tu es quelqu'un qui laisse sa chance aux gens ou une fois, deux fois ou pas du tout? À quel moment tu interviens, avec quelle réactivité?
Écoute, j'essaye d'avoir le maximum de réactivité. Nous, chez Talent, on a beaucoup exploité la culture du feedback. Donc il y a eu débat sur cette philosophie-là, mais tu vois, on a exploité un logiciel notamment qui permettait d'avoir le feedback des salariés quasiment en temps réel sur tous les aspects internes de l'entreprise.
De manière anonyme?
De manière anonyme, et du coup ça nous permettait de voir par équipe, enfin je trouve ça magique parce que on avait une visibilité objectif de la qualité d'un manager, parce qu'avant c'était quand même très subjectif, je veux dire, ouais. Sa relation avec toi permettait de voir si lui était bon avec ses équipes. Donc ouais. Maintenant, avoir une remontée de l'équipe, ça permet de jauger vachement sur ce truc-là. Ensuite, ouais, je pense pas que je sois un manager Elon Musk style, quoi. Tu vois, je comprends, franchement, ça a un intérêt. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu sais, c'est cette phrase, ouais. Tout le monde l'a dit. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec cette phrase.
Pourquoi?
Parce que je pense que quand il y a un doute, il y a un doute. Quand il y a un doute, on peut résoudre le doute, c'est ça que je veux dire.
Là, je pense que cette phrase, elle existe parce que parfois, effectivement, on avait une intuition et on s'est dit, mince, j'avais raison il y a 3 mois, j'aurais pu prendre la réaction, enfin réagir plus vite, quoi.
Ouais.
Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
Tu disais, il y a des bases sur les cultures du feedback, pourquoi?
C'est une bonne question.
Si tu l'as bien défendu par ailleurs.
Ouais, moi je la défends. Après, si tu veux, la culture du feedback, elle donne un certain pouvoir aux salariés. Elle rend le modèle plus participatif. Donc, il y a des attentes du côté salarié. Et je pense que ces modèles-là, comme je l'expliquais tout à l'heure, en période de crise, il
faut. La question, je pense qu'il. Priorité. Je pense qu'effectivement, en période de crise, tu peux peut-être toujours avoir le feedback, mais en tous les cas, tu sais qu'il y a d'autres considérations qui viennent en part. Et il est vrai, dans mon expérience, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que quand tu as des middle managers, ils peuvent te parler à toi et tu peux les trouver parfaits. Parce qu'ils ont aussi ils sont aussi en train d'écrire leur CV, leur carrière, etc. Et tu ne rends pas forcément compte de leur comportement vis-à-vis de leurs équipes. Est-ce qu'eux, ils sont coachs? Parce que finalement, souvent, moi, j'ai remarqué qu'un manager, je ne parle pas du manager qui est C-level, etc., mais il va être à la fois chef d'équipe, mais aussi membre d'un organe de gouvernance et potentiellement au-dessus. Donc, il est toujours un peu tiraillé entre « Ah bah, ils nous ont dit qu'il fallait faire ça. » Donc là, il va plutôt prendre le truc de son équipe. « C'est pas moi, je suis désolé, mais bon, voilà, il n'y aura pas d'augmentation de salaire, ou il va falloir cravacher plus, ou alors on va changer les règles de remote, ou quoi que ce soit. » Ou alors, au contraire, dans certains cas, au contraire, être beaucoup plus putassier, hein, mais il va toujours, dans ce cas-là, essayer de défendre son équipe vis-à-vis du COMEX, potentiellement. Mais pour le coup, peut-être sans être suffisamment dur, dans certains cas où il fallait. Donc, tu as toujours un peu ce tiraillement-là que je trouvais intéressant d'essayer de résoudre. Pour l'instant, je n'ai pas complètement réussi, donc en y réfléchissant.
Ouais, en fait, moi aussi, je me suis vachement posé cette question. En fait, dans le rôle du manager, sa relation, qu'il ait une relation privilégiée avec son équipe, ça fait sens, c'est logique. Il essaie de leur faire atteindre des choses. Par contre, je me suis rendu compte, là, en recréant le COMEX notamment et en discutant avec pas mal de grands patrons, qu'un manager qui défend son équipe dans un COMEX, ça c'est très problématique. Parce que ça crée un frein à l'avancement vers une solution qui soit bon pour l'entreprise. Et je pense qu'il faut, enfin moi en tout cas, dans mon dernier COMEX, j'ai demandé à chacun d'être clair sur ce sujet-là. On est là, les membres du COMEX sont là pour aider. Donc déjà, l'exécution de la stratégie du board, ça c'est évident, c'est la définition du COMEX. Mais pour ça, il faut privilégier les solutions qui sont bonnes pour l'entreprise et non pas les solutions qui sont positives ou négatives pour telle ou telle équipe.
Sans transition. Tu as parlé de cette nouvelle roadmap que tu as écrite. D'abord dans ton coin, puis présenté, puis donc tu reviens aux manettes. Et donc, c'est une nouvelle ère pour Talent. Je te propose de lancer cette nouvelle ère avec une nouvelle question.
Vous avez un message.
Bonjour Jonathan, c'est Étienne de Madines. Talent.io, c'est l'aventure d'une vie. Tu as repris les rênes récemment. Et aujourd'hui, ton pari est de miser sur les fonctions commerciales. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce virage aujourd'hui?
Merci pour la question.
Mouvement. Il a bien fermé la porte derrière lui.
Ouais, pas mal.
Le background.
En fait, le lancement de Sales, donc de la fonction commerciale sur Talent, il fait partie d'une stratégie un peu plus globale. Donc, il y a trois choses que j'ai lancées. La première, dès que je suis rentré, c'est m'assurer que le seul focus est l'expérience client, notamment. Et donc, on a restructuré tout le funnel, tous les échanges avec les clients pour être sûr que là, cette fois-ci, on retourne dans un modèle qui soit premium, qui nous différencie au maximum de LinkedIn. Quand tu vas sur LinkedIn, tu as un profil candidat. Quand tu vas sur Talent, tu as tous les détails, ce qu'on appelle du deep recruitment. C'est tous les détails qui te permettent de savoir tout de suite si oui ou non le profil il va fitter avec toi. Et tu as juste un clic à faire pour être sûr que la personne que tu as reçue en entretien. Donc, le but, c'est vraiment qu'on débrouche complètement ce sujet-là. Ça, c'est pour le premier stade, je pense, qui était le plus important dans cette nouvelle roadmap. Le second, c'est la diversification. Pourquoi la diversification? Déjà, parce qu'on a un asset client de plusieurs milliers de clients. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir leur proposer autre chose. Et puis, parce que la crise de la tête, le principal problème qu'elle a généré, c'est de stopper l'innovation. Vous allez dans différents boards. Olivier, toi, tu dois avoir pas mal de boards. La plupart des décisions qu'il y a eu l'année dernière, c'était « Bon, on va stopper l'innovation. » Donc, entre parenthèses, on arrête de recruter des devs. Et on va quand même soutenir un peu le revenu pour être sûr que ça tienne. Donc, on va recruter quelques commerciaux. Mmh. Voilà, ce truc-là, je l'ai entendu dans pas mal de cas. Donc, du coup, ça m'a mis à l'aise à l'idée de dire « Bon, la diversification, on va la démarrer avec les sales. » Et quand je dis sales, c'est tous les métiers relatifs à ça.
Et à aucun moment une entreprise s'arrête de vouloir vendre.
Ben, sinon, elle s'arrête tout court. C'est un peu risqué. Et le dernier point qu'on annonce, ben, qu'on va annoncer d'ailleurs cette semaine, ben, tu vois, on a un truc à annoncer. En fait, c'est la partie service. En fait, je suis persuadé que pendant là, ces 10 dernières années, on s'est tous battus pour essayer de transformer un modèle qui était un modèle de service en un modèle produit pur. Pas que dans le recrutement, dans plein de domaines SaaS. Et c'était sympa, ça a aidé pas mal d'entreprises, mais ça n'a pas créé une transformation où l'humain est devenu optionnel. Je pense que, en fait, c'était un leurre de croire qu'on allait transformer un modèle, mais par contre, je pense que là, on rentre dans une phase où l'hybride, comme pour le travail, va être clé. Et donc, du coup, on lance une offre notamment de RPO. Alors le RPO, c'est les recruteurs externalisés. Vous pouvez avoir accès à des recruteurs seniors, autonomes, externalisés, qui viennent en mission un mois, deux mois, un an. Et donc j'ai recréé la communauté des anciens de Talent, en plus de ceux de Talent aujourd'hui, pour les sensibiliser à cette idée. Et on les propose en mission, on leur propose des missions de RPO auprès des licornes de la tech, avec en plus un accès illimité aux produits Talentio. Et ça marche bien, on l'a lancé là, on l'a proposé à Doctolib et à Voodoo, et les deux ont...
On dit oui.
On dit oui, on a deux recruteurs qui ont démarré chez eux.
En quoi cette dimension servicielle vient grignoter ou pas du tout le produit Talent?
Bah en fait, en vrai, je m'en fous. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, j'aurais proposé ça il y a 3 ans dans un board, ils m'ont dit « mais t'es complètement con ». Dire qu'est-ce qu'on va vendre du service? On est une boîte produit, le seul objectif c'est la scalabilité. Et ben là je m'en fous en fait. Ce qui m'intéresse c'est d'être sûr qu'on a la meilleure expérience possible et que ça fit avec les attentes.
En tout cas là c'est un peu tôt pour voir justement si Doctolib ou Voodoo vont utiliser les deux, mais quand bien même tu le projetterais et ça viendrait grignoter, tu t'en fous.
Ouais, mais dans ce cas, c'est une nouvelle offre avec un go-to-market différent qui fait que tu proposes un recruteur en quelque sorte, enfin, ou plusieurs. Mais donc, indépendamment de l'abonnement ou du paiement au software.
Non, bah en fait, si tu veux, le software à l'année, quand on le vendait sur des grosses boîtes qui recrutent beaucoup, on le vendait en illimité sur l'année.
D'accord.
Donc voilà, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu vois, ça... Voilà, ça pouvait créer de la friction. Là, en l'intégrant et en rajoutant juste un petit markup sur le prix journalier du RPO, ben, déjà, ça passe beaucoup plus, de manière beaucoup plus fluide pour les entreprises. Et puis pour nous, ça intègre un service complet, en fait.
Moi, je pense que c'est très smart.
Ah, merci.
Parce que je crois aussi que j'entends dans plusieurs cas, effectivement, bah, cette hésitation produit, projet, etc. Et tout le monde a rêvé du product scalable, etc. En permanence. Et il y en a eu plein dans l'agence, dans les ad tech, le marketing, le conseil, la data, les web analytics, tous les logiciels, etc. Mais dans beaucoup de cas, il y a des écosystèmes qui se créent de toutes les façons. Donc il faut construire ces écosystèmes. C'est une des convictions d'ailleurs de 2050, c'est que une entreprise, elle vend pas juste une solution logicielle, elle crée des écosystèmes. Dans ces écosystèmes, il y a des conseils, des gens qui aident à implémenter un logiciel, des gens qui vont accompagner. Et donc ça, c'est beaucoup de valeur en fait. On dit souvent que c'est un peu la différence entre les chercheurs d'or et les vendeurs de pelles. Hein. Donc les chercheurs d'or, il y en a quelques-uns qui gagnent beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent autour du phénomène. Et donc créer un écosystème, ça te rend aussi beaucoup plus résilient à terme.
Je veux bien qu'on revienne rapidement sur l'expérience que tu as défendue. C'est quoi une expérience client sans couture? Qu'est-ce qui fait la force dans la construction?
En vrai, nous, pour la mission de Talent, après chacun a son secteur et son pilier, mais nous, le but en soi, c'est que n'importe quelle entreprise puisse recevoir en entretien en face de lui un candidat qui fit avec ses attentes sans avoir perdu du temps sur tout ce qu'il y a avant qu'ils soient assis ensemble. C'est-à-dire le sourcing, c'est-à-dire aller le chercher et le qualifier. Cette partie-là, c'est le job de Talent. Donc, mon but, c'est de permettre à des gens de s'asseoir l'un face à l'autre en ayant les mêmes attentes et pouvant déboucher sur un emploi.
Parce que il me semble, moi, en regardant de loin, je vais peut-être dire une bêtise, hein, j'ai le droit, c'est pas grave, parce que je connais, j'adore tout le marché des HR, mais je ne suis pas spécialiste comme toi. Mais il me semble qu'il y a deux indicateurs assez importants, l'un en amont, l'autre en aval. Il y en a un qui est le temps gagné.
par rapport à tout ce que tu as décrit du marché, du marché du travail, de la petite annonce au job board en passant par les différents recrutements plus ou moins sélectifs et plus ou moins de pénurie sur le marché en fonction de la conjoncture. Donc il y a une notion voilà, d'efficacité en amont, d'une part, de temps passé, et puis ensuite il y a une question après de match et de fit en aval. Est-ce que voilà, le combien de temps le candidat est resté, est-ce que effectivement à travers on a été plus vite, mais on a aussi trouvé des meilleurs candidats quoi, en quelque sorte, enfin en tout cas des meilleurs applicants ou des personnes qu'on a recrutées qui se sont avérées bien cocher les cases. Et est-ce que vous avez réussi vous à mettre en place des et si tu vas me dire qu'il y a peut-être d'autres indicateurs que c'est pas les bons, mais en tout cas est-ce que sur ces deux phases amont et aval vous avez pu démontrer que vous étiez les meilleurs ou enfin parmi les meilleurs?
Alors l'aval, donc si je comprends ton point, ce que tu mets en aval, c'est la rétention des,
oui,
des profils
c'est ça.
Dans
c'est
l'entreprise.
C'est le bon match finalement, un peu comme voilà, comme une application de rencontre. Tu peux rencontrer plein de gens une nuit, mais est-ce que dans combien t'en rencontres qui vont finalement rester après en couple?
En fait, là, je suis pas sûr qu'on parle de la même chose.
Ouais.
L'aval, tu parles après qu'ils aient été recrutés.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Ouais, ouais.
Le temps qu'ils vont rester à l'entreprise.
Ouais.
Effectivement, ça, la rétention, ça, c'est un sujet lié à la culture d'entreprise,
ouais,
directement, au leadership, à plein de choses en interne. Donc,
mais sur lequel potentiellement le matching que vous faites au départ peut peut-être répondre en partie.
J'ai aucun élément qui me permette de dire qu'ils répondent ou pas. Ce qu'on peut voir, c'est effectivement le taux de churn au départ. S'il y a des gens qui partent pendant la période d'essai,
mmh,
oui,
ouais.
ça c'est un élément qu'on peut suivre. Mais sinon, en aval, c'est quand même très très lié à l'entreprise. Nous, le but, c'est qu'on assoie les deux personnes face à face. Après, pour que le candidat accepte de rejoindre l'entreprise, il y a le sujet de la marque employeur.
Ouais.
Donc, plus la marque employeur est bonne, plus on a de chances qu'ils rejoignent. D'ailleurs, nous, on a, dans les data talents, c'est ça qui est fou. Moi, je pourrais être capable de dire quelle est la boîte qui est la meilleure marque employeur de France, parce que je vois leur taux de conversion sur la plateforme. Une boîte qui a besoin, qui arrive à convertir 50% des candidats, c'est sûr que c'est mieux qu'une boîte qui arrive à en convertir 30% ou 20%.
T'as des noms en tête?
Non, même pas. Je ne l'ai pas regardé depuis longtemps.
Bon, bientôt le baromètre. Pour recruter, pour bien recruter, donc on l'a compris, soit on utilise talent, soit on se débrouille avec ses petites mains. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut regarder chez un candidat pour s'assurer que ça va matcher?
Ben, en fait, t'as toujours eu un...
Dévoile-nous un petit peu de la secret sauce talent.
Ouais, en fait, de toute façon, d'ordre général, dans le recrutement, il y a toujours eu deux paramètres qu'il est important de savoir décrypter. Le paramètre des hard skills et le paramètre des soft skills. Donc, il y a ces deux choses-là. Il y a beaucoup... À l'époque, on se concentrait uniquement sur les hard skills, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Maintenant, surtout avec le sujet du turnover, on est rentré dans le sujet des soft skills. Et donc voilà, c'est de ce sujet-là à creuser.
Pardon, il y a une petite interruption à cause de moi parce que je réalisais que mon téléphone n'était pas sur mode avion et que ça pouvait être une perturbation.
Ah pardon, c'est dit, je ne comprenais pas d'où j'avais ce truc.
Non, mais c'est voilà. Comme quoi, le mode avion, ça doit gêner aussi dans les cockpits des pilotes.
Ouais, c'est possible.
Bah écoute, on va donner le pilotage complet de l'avion France à notre invité.
La règle du jeu, c'est d'imaginer que voilà, si on te donnait les clés de la France, comme bah, tu es quelqu'un d'engagé, passionné. Alors, on a compris que tu étais sur une verticale, mais finalement, les people, c'est important aussi, hein, du point de vue d'un président de la République. Donc, si jamais tu étais élu et que tu avais des décisions à prendre ou quelque chose qui te tient à cœur, qu'est-ce que tu ferais?
Alors, j'en ai deux en tête. J'en ai un. Tu vois, j'ai découvert là pendant l'année passée. Hein. Bon, on n'a pas eu le temps de finir la troisième vie, mais là, d'ailleurs, on sort de la zone rouge. Donc, la stratégie commence à payer, c'est une très bonne chose. Mais si tu veux, pendant l'année passée, je me suis rendu compte à quel point les réductions d'effectifs généraient des grandes difficultés aux entreprises déjà en difficulté. Des difficultés juridiques, des difficultés financières. Et moi qui ai toujours été assez défenseur du modèle français sur la protection du salarié, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien pensées et bien structurées dans le cadre des boîtes crises, qui sont en difficulté.
En cas de licenciement économique ou de plan social, par exemple?
Ouais. En fait, il faut à ce moment-là comprendre qu'une boîte qu'on sauve, c'est un bien global qu'on sauve.
Et des futurs emplois, potentiellement.
Exactement. C'est effectivement pour ce point-là que je dis ça. Et je pense que l'État n'en a pas conscience sur les règles qui sont structurées financièrement. Elles impactent énormément des boîtes qui sont déjà en difficulté.
Et tu penses à des choses plus concrètes qui te viennent à l'esprit?
Je pense en fait qu'il faudrait y avoir un modèle qui permette de pouvoir, aux entreprises qui peuvent justifier réellement une vraie difficulté, de pouvoir restructurer dans des conditions financières qui sont... relativement acceptables, ou en tout cas qui leur permettent d'éviter la liquidation. Et je pense que ce truc-là, il a été très mal pensé. D'ailleurs, tu vois bien sur les licenciements économiques, le modèle financier, il est catastrophique, quoi.
Ça peut coûter cher, ouais. Après, bon, effectivement, il y a toujours la question du point de vue des salariés. Qu'est-ce qui permet, du point de vue du marché du travail, d'avoir davantage de flexibilité pour que l'ensemble se détende un peu, quoi, parce que la situation est dramatique aussi, parce que probablement, des deux côtés, il y a un problème.
Tout à fait. Mais tu sais, ça ne serait pas si compliqué que ça de restructurer un peu ça, parce que si tu veux, le modèle du licenciement économique, les salariés sont indemnisés donc 3 mois et arrêtent de bosser au bout de 8 jours. Et ces 3 mois-là, ils sont fatals pour une entreprise en difficulté. Un licenciement pour faute, c'est 3 mois et tu arrêtes de bosser au bout de 3 mois. Donc, c'est plus compliqué pour l'entreprise qu'un licenciement pour faute. Et ça
n'a
pas vraiment d'intérêt,
ouais, c'est un paradoxe. C'est un peu illogique.
T'évoquais une deuxième mesure.
Le deuxième sujet qu'il faut évidemment absolument régler, c'est le sujet des relations tripartites, notamment via les plateformes. Et donc nous, si tu veux, pour le RPO, on travaille via des... Voilà, on va avoir des profils qui sont en freelance. On place aussi des profils en freelance chez nos clients qui sont en freelance et qu'on place en mission. Toute cette zone-là, c'est une zone grise qui est pas encore claire en France.
Avec des risques, tu veux dire, de requalification, par exemple?
Bien sûr, avec des risques qui deviennent incompréhensibles. Je dis pas que l'objectif...
Juste pour préciser à nos auditeurs, qui sont pas tous aussi spécialisés, mais la requalification, ça consiste à d'avoir un statut de travailleur indépendant, mais qui, dans certaines conditions, pourrait être requalifié. Au détriment de l'employeur, si par exemple il a un seul contrat, il est plus vraiment, il pourrait se justifier de ne pas être réellement indépendant, donc d'avoir une sorte de subordination en fait à un employeur et pouvoir s'en réclamer, ce qui peut coûter très très cher à l'entreprise qui avait peut-être pas envie de ça,
ouais.
Mais c'est peut-être aussi voilà l'organisation, le droit du travail ou parfois la responsabilité de la personne du travailleur indépendant. Et il pourrait ensuite du coup réclamer du coup toutes les charges sociales associées, les congés payés ou autres qui auraient été rétroactivement l'objet d'un contrat de travail, quoi.
Et même s'il ne réclame rien, l'État, l'URSSAF, peut à tout moment décider de réclamer. En fait, c'est juste qu'il faut légiférer un moment sur ce truc-là. C'est pas une question... Enfin, il y a sûrement mieux que... Je ne défends même pas une cause. Je dis juste à un moment, il faut éclaircir.
Il faut savoir quel terrain on joue.
Exactement, il faut éclaircir. Parce que tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas investir. On met un pied, on enlève un pied. On est zone grise. On paye énormément des avocats pour donner une analyse. Puis un autre cabinet d'avocats pour donner une seconde analyse, etc. etc. Donc, je pense que personne n'est gagnant de cette situation.
Le flou, ça sert rarement.
Ouais.
Question rapide, réponse plus aussi longue que tu veux finalement, et sera peut-être aussi sur certaines l'occasion de parler de cette nouvelle direction de phase de vie pour Talent. Ta dernière nuit blanche.
Ça c'est pas la première, c'est la dernière.
Ouais.
Si tu veux, ça, c'est assez fou, parce que je me disais pendant genre 10 ans d'entrepreneuriat, je crois que ça m'est pas arrivé une seule fois de rentrer chez moi en ayant vraiment peur pour mon avenir ou peur pour la situation de ma boîte. J'ai eu des périodes un peu tricky, mais là, sur ces derniers mois, ouais, il y a 2-3 soirs où je suis rentré chez moi, où j'avais le cerveau qui continuait à réfléchir à la nuit en me disant Est-ce que j'ai le bon plan? Est-ce que ça va le faire? Donc ouais, c'était plutôt récent.
Ton premier recrutement foiré?
Ah, ça c'est une bonne question. Oh là là, j'en ai fait des recrutements foirés. Hein. Mon Dieu, quand j'ai démarré ma première boîte, donc Urban Linker, dans les petits locaux, on avait un sous-sol qui était prêté par mon oncle. Là, j'ai commencé à faire des recrutements et il y a des gens qui ont fait des allers-retours très rapides.
Ils n'ont pas fini leur période d'essai?
Non, ils n'ont pas fini.
Est-ce que tu as compris pourquoi?
Ouais, je pense que j'étais très orienté feeling. J'étais pas du tout structuré dans mon approche de recrutement. Soft skills, hard skills, je savais pas ce que c'était. Je crois que même la culture entreprise, je savais pas ce que c'était à l'époque, pour te dire, tu vois. Donc, comme quoi, on apprend tous. Hein.
C'est bien de le reconnaître.
Dernière conquête.
C'est-à-dire
conquête féminine.
Évidemment, j'ai pensé à la même chose. C'est ma femme, il y a 8 ans.
Parler professionnellement, bien sûr.
Pendant les 2-3 ans là, où j'étais disponible, je me suis quand même bien amusé à investir dans certaines boîtes, à coacher quelques CEO et à me retrouver donc à certains boards aussi, sur des marchés qui étaient très différents de ce marché RH dont j'ai l'habitude, où j'ai passé toute ma vie. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant.
Première levée de fonds?
Première levée de fonds, c'était 2 mois après le lancement de Talent. C'était une levée de 2 millions en BSR.
Sur Urban Linker, il n'y avait jamais eu de levée de fonds?
Non. Donc, c'est 2 millions en BSR. C'était à l'époque, en 2015, c'était la plus grosse levée BSR, je crois, en France. Et c'était la première fois qu'il y avait des fonds d'investissement, des VC, qui acceptaient de signer ce document qui était très chelou pour eux.
C'est vrai que c'est un peu moins adapté au VC, plutôt au Business Angel, mais pourquoi pas?
Tu peux expliquer?
Parce qu'en fait, tu sais, c'est pas une augmentation de capital, c'est pas un... En fait, on souscrit à des options d'action quand on fait une BSR. Ça vient d'un modèle américain.
C'est une future augmentation de capital. Effectivement, le modèle américain, c'est SAFE. Et ce SAFE, ça permet effectivement de souscrire plus tard à une valorisation qui n'est pas déterminée à l'instant T, donc pour pouvoir aller plus vite. Avec associé potentiellement un discount normalement sur la future valorisation, puisque tu prends un risque quand même de mettre le cash, qu'on appelle du quasi-equity. L'equity, c'est la prise de participation. Quasi-equity, bah, c'est quelque chose qui est intermédiaire, mais qui n'est quand même pas une dette, contrairement aux obligations converties, puisque ce n'est pas remboursable, alors que l'obligation convertible, ça va être l'équivalent, mais qu'on peut choisir de rembourser ou de transformer en action. Les BSR, ils sont censés se transformer en action, soit au bout d'un certain temps, soit lors d'un événement d'augmentation de capital futur.
Qu'est-ce que t'expliques bien?
Oh, j'aurais dû être prof.
Ou avocat.
Premier ou dernier, dans tous les cas, plus important, coup de culot.
Oh là là, j'en ai un en ce moment, mais je peux pas en parler. Attends, je vais t'en trouver un autre.
Ah, mais du coup, on a envie de le savoir. Ça me démange.
Non, je peux pas t'en parler de celui-là. Dans 3 mois, peut-être.
Dernier doute.
Plein
dedans.
Ouais, on est en plein dedans. Enfin, jusqu'à fin d'année. Depuis janvier, là, on a enfin les fruits d'un gros travail. Donc, je me sens un petit peu moins sur la zone de doute que la fin d'année dernière.
Et premier client signé dont tu es fier et qui n'était pas un ami?
Écoute, quand on a commencé Urban Linker, au tout début, la tech, c'était à peu près le seul marché où ça a commencé à recruter, parce que c'était la crise financière et que les autres boîtes, c'était une catastrophe. Et je me rappelle que nos premiers clients, ça a été Bazar Chic, et qui était un... Tu vois, tu te rappelles?
Je me rappelle Bazar Chic.
Et en fait, peu après, j'ai recruté pour My Major Company. Je me suis fait très pote avec un des fondateurs, Simon. Et là, on a commencé à créer un groupe de potes et on a été une sorte de promotion à ce moment-là, 2008-2009, où il y avait Céline Lazorte, il y avait Richard de French Web. On était quelques-uns comme ça, peut-être une quinzaine, une vingtaine à se retrouver et à boire des apéros le soir et se raconter nos vies.
Avant qu'on aborde la dernière ligne droite de cette émission et les prochaines rubriques, c'est le moment de poser les questions maintenant ou de se taire à jamais sur ce qu'on voulait aborder sur la boîte. Olivier, je te vois réagir.
Oui, ben moi, non, mais c'est vrai que tout ce marché qu'on qualifie parfois un peu de HR tech, mais HR tech, enfin, au sens employé aussi, parce que les HR, c'est parfois du côté des DRH, du côté après des recruteurs. Et comme tu disais toi-même d'ailleurs que vous n'avez pas forcément beaucoup de vision sur la rétention des salariés après, qui est plutôt liée au RH, au sens interne, ou la culture d'entreprise. Mais du coup, dans cet espace global, qui penses-tu va
si on peut citer certains de tes concurrents, et au-delà de toi, qu'est-ce qui va pouvoir révolutionner ou vraiment rester à long terme et marquer ce marché? Qui sont ceux qui ont une proposition de valeur qui t'intéresse?
Déjà, si tu veux, c'est un marché qui est complexe. Souvent, il y a des VC qui ne vont pas sur ce marché de la HRTech parce qu'en fait, c'est un marché où les frontières, elles sont très bizarres, elles sont très floues. Il y a plusieurs piliers dans ce marché. Donc, tu as le recrutement, il est déjà divisé par plusieurs piliers, l'acquisition de candidats, les process de recrutement, le onboarding, machin, etc. Et puis, tu as toute la partie admin, toute la partie paye, toute la partie formation, gestion de carrière. Enfin, il y en a plein. Et en fait, si tu veux, il n'y a pas eu de frontières très claires. C'est-à-dire que tu as des boîtes qui ont commencé sur un palier, sur un pilier, et ensuite ils grappillent sur le second, puis là, et puis on se demande est-ce que ce pilier, il a du sens, est-ce qu'il n'en a pas, est-ce qu'il va... Donc, c'est très compliqué, tu vois, de...
Sachant que la formation est aussi un peu dans cette
exactement,
ce marché.
Exactement. Bon truc. Tu vois, mais on peut tout à fait se dire, est-ce que la formation, ça a du sens en soi en tant que telle? Est-ce qu'il faut qu'elle soit intégrée à un ATS? Est-ce qu'il faut qu'elle soit intégrée à un outil d'admin? Est-ce que... Comment? Pourquoi? Donc, en fait, si tu veux, il y a... c'est un marché qui commence à devenir mature. Évidemment, sur la partie recrutement, il y en a un qui prend un maximum de la valeur, c'est LinkedIn. Parce qu'il arrive à faire en sorte de regrouper le monde entier sur une seule et unique plateforme qui gère du contenu, du recrutement, des mises en relation business. Enfin bref, il y a un pool qui est très central. Et ensuite, à côté de ça, il y a des leaders sur les différents petits marchés, ATS, admin RH, etc.
Il n'y a aucun acteur qui a essayé de tirer le fil depuis la recherche du candidat idéal jusqu'à sa gestion.
Écoute, il y a des gens qui ont des... La plupart, non. La plupart, c'est des spécialistes. Nous, on l'est. Après, il y a des gens qui ont réussi et qui sont à différentes échelles, qui ont une approche originale. Tu vois, Jérémy de Welcome to the Jungle, un mec avec qui je discute souvent, tu vois. Lui, il a eu une approche qui pouvait paraître très originale au départ. Parce que il a créé un ATS, créé un job board, créé un média. Voilà, c'est un mix un peu de tout. Quand il vend son produit, c'est un paquet avec plein d'options dedans. Et au final, il a réussi comme ça à se faire une place sur le marché global de la marque employeur, ce qui est très bien, tu vois. Donc, il y en a, je sais même pas s'il y a un tout doux, en fait. Tu vois, il y a plein de façons de réussir différentes là-dessus.
Dernier point, moi, que je voulais aborder, c'était l'utilisation de l'IA chez Talent éventuellement, et puis plus largement sur le marché. Ça a un impact à peu près partout. Comment vous affrontez ça ou au contraire, vous le survalorisez?
Non, je pense qu'il y a un vrai enjeu et que nous, particulièrement, ça va jouer. En fait, si tu veux, donc LinkedIn, d'un côté, met tout le monde sur la même place. Donc, l'enjeu, si tu veux proposer un service qui soit efficace, complémentaire et de haut niveau, c'est de pouvoir proposer du deep recruitment. Donc, l'inverse de LinkedIn, c'est au lieu que tu aies beaucoup de monde, tu aies peu de monde, mais te correspondent parfaitement. Et ce deep recruitment, on n'en est qu'au début. La data a permis de maîtriser un certain nombre d'axes pour filtrer, pour rechercher. Mais l'IA va permettre sûrement de démultiplier complètement ce qu'on peut faire dans ce sujet de deep recruitment.
Tu peux dérouler un peu là-dessus ou...
Ben, disons que toi, si tu dois, Thomas, recruter quelqu'un chez Feuille Blanche, tu sais, le critère de base que tu vas pouvoir trouver sur LinkedIn, c'est quelqu'un qui a fait de la communication, par exemple, et qui a 5 ans d'expérience. OK. Par contre, si tu veux savoir, si tu veux gagner beaucoup de temps, ça serait bien que tu aies tout de suite un profil qui matche avec ta culture entreprise, qui soit OK pour bosser en semi-présentiel parce que c'est comme ça que tu as mis en place le truc, qui évidemment parle telle ou telle langue, qui a déjà une expérience de relation avec tel annonceur, etc. Donc en fait, tu peux aller très très loin en fait dans ta vision du profil qui matcherait avec tes attentes, et ça, c'est l'affaire de l'IA. Non, ça ne sera pas son créneau.
On avait eu un bon exemple, je nous renvoie à un autre podcast, un précédent épisode de Pascal Lorne sur GoJob, qui est sur le marché du travail temporaire, mais qui a vraiment mis l'IA et différents types d'algorithmes, hein, d'ailleurs régénératifs, mais même avant ça, sur la qualification et le matching très rapide pour des jobs, évidemment, en travail temporaire.
Ça m'étonne pas, c'est un ingé.
Ouais, c'est un vrai ingé, il est passionné de ça. Ouais. Et il a dit qu'il y passait 50% de son temps à son board et que c'était, pour lui, c'était la disruption du marché qu'il fallait qu'il justifie ça. Ouais.
Et les autres 50%, c'était le yoga au board.
Mais tu vois, je trouve que l'IA, alors c'est très bien s'il a réussi à le faire, c'est qu'il a réussi à trouver un modèle aussi pour surpasser la crise. Mais je trouve que ce qui est dommage, c'est que l'IA, qui est une magnifique promesse, aujourd'hui est freinée uniquement par les freins d'accès au capital, en fait. Parce que le fait qu'on n'ait pas l'accès au capital freine l'innovation, freine le recrutement, freine le développement de toute cette partie technique.
Monnaie, monnaie, monnaie.
Exactement. Et donc, l'IA, il est un peu mis de côté.
Alors, en off, tu m'as dit, mais c'est bon, on a fait du perso depuis le début.
Je vois pas ce que je peux te dire de plus.
On prend les paris, si tu
veux. Non, mais si tu veux, nous, ce qui nous intéresse, tu as commencé à parler hein, de ta famille, du sport, des voyages. Mais ce qui est intéressant, c'est pendant ta vie d'entrepreneur, que tu reprends et quand tu es actif, c'était passionnant que tu dises ben, que tu avais ce côté... un peu monocentré avec une obsession autour de ce qui tournait de ton binet, de la difficulté à aller trouver de l'inspiration ailleurs, etc. Est-ce que malgré tout, maintenant que tu as pris ce recul, moi c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est que tu as vécu ces plusieurs vies du coup, est-ce que tu arrives avec cette capacité aussi à appréhender un peu mieux ton équilibre? Alors, parfois on parle de work-life balance, mais c'est un peu, comment dire, suranné. Comme terme, mais tu vois, est-ce que avec le recul que tu as, avec tes 40 ans, ta barbe un peu poivre et sel, moins que moi, mais tu vois, est-ce que avec ce recul-là, tu peux dire, est-ce que t'aurais des conseils à donner ?
Alors je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a une question de ta dernière conquête et la vraie.
Vous avez un message.
Selon toi, la réussite professionnelle rend-elle heureuse ?
C'est une voix que tu connais bien.
Ah oui, je la connais bien. C'est ma femme depuis 8 ans et on est tous les deux les parents d'une petite Gabrielle de 3 ans et demi. Et donc, il a vécu avec moi ces dernières périodes dont Olivier parle. En fait, faire dire en fait, parce que ma petite fille, elle commence par en fait quand elle dit une phrase.
Alors, par contre.
C'est ça, tu vois. Et en fait, non, qu'est-ce qu'on allait dire ?
Ouais, on parlait du
l'équilibre,
vie pro, vie perso, et à ça s'ajoutait la dimension
d'Olivier.
Et puis
surtout, le fait que tu n'es pas le même que quand tu avais 30 ans. Donc, est-ce que là-dessus, tu as pris du recul? Ou est-ce que tu vas retomber dans le piège, qui est peut-être pas un piège, mais d'être focus 100%?
Ouais, alors, je pense vraiment que je vais tout faire pour ne pas retomber dans ce piège-là. Je pense qu'en fait, que je suis conscient que maintenant, je recherche un équilibre de vie plus qu'un but. Voilà, c'est déjà ça. Si tu veux, c'est quand même un gros pas de se dire ça, parce que quand je me disais les dernières années, mon but, c'est d'arrêter de travailler, bah en fait, non.
Tu l'attends, tu te rends compte que
c'est pas forcément un but. Le but, c'est de pouvoir avoir la possibilité d'arrêter de travailler. Ça, c'est un beau but, je trouve. Mais plutôt d'y trouver un équilibre.
Et je pense qu'elle savait d'avance que ta réponse ne lui suffirait peut-être pas. Alors, il y en a d'autres.
Vous avez un message.
Et est-ce que tu penses que le travail à tout prix est la clé du bonheur ?
T'as 3 ans.
Oh, elle a les mêmes centres d'intérêt que moi. J'aimerais beaucoup la rencontrer. On va échanger.
Non, mais je pense qu'enfin, on a beaucoup parlé entre nous. Enfin, c'est évident que le travail en soi n'est qu'un paramètre qui t'aide à trouver cet équilibre-là, qui, dans certaines périodes de vie, prend plus de place que d'autres. Et qui, dans certaines périodes de vie, t'apporte plus d'épanouissement que d'autres. Et effectivement, faire le choix de stopper complètement cette partie-là de ta vie, quand tu as été entrepreneur et que tu as été nourri
à l'adrénaline,
ouais. c'est un sujet qui peut être complexe, mais qui a, somme toute, comme beaucoup d'expériences, un vrai intérêt. Hein. Enfin, je suis très content de l'avoir fait, à refaire, je le referai. Parce que tu apprends, t'en apprends sur toi-même.
Est-ce que tu ne crois pas que ne rien faire ou arrêter de travailler, c'est aussi quelque chose qui demande un effort particulier? C'est-à-dire que, parce que tu peux avoir l'équivalent d'un burn-out, quoi, une sorte de burn-down, un vide. Moi, j'ai ressenti à certains moments. Le burn-out, c'est ça. J'arrive plus à trouver le terme. Mais moi, je l'ai ressenti à certains moments. C'est pas mon podcast, mais il y a des moments dans ma vie où j'ai arrêté une tâche qui me prenait X% de mon temps. Et d'un seul coup, grand vide. Le grand vide, ça peut être un truc d'ego, hein, parfois. C'est aussi du lien social en moins. Plein de choses différentes. Mais donc, je pense qu'il faut beaucoup de force, une sorte d'énergie intérieure, une architecture. Ma femme me dit, mais t'es pas assez charpentier, du coup, t'as besoin des béquilles des autres, etc. Tu devrais te contenter, tu vois, de couper l'herbe sur ta pelouse.
Ouais, c'est vraiment un sujet profond. Hein.
Ouais.
C'est un sujet profond.
D'alignement, oui.
Ouais, d'alignement avec soi-même. C'est bizarre, t'as un sentiment d'enlever toute ta charge mentale et pourtant tu peux ressentir une forme de stress qui est différente.
Tu parlais d'adrénaline. Quand on est accro à l'adrénaline, c'est rare qu'on cherche pas des dérivés, des dérivatifs pour aller la rechercher. Qu'est-ce que t'as mené, testé, tenté pour aller retrouver cette adrénaline pendant ce temps que tu t'étais autorisé?
J'allais chercher un peu d'adrénaline, j'allais chercher aussi de la gymnastique intellectuelle. Bon, franchement, j'ai fait plein de trucs, mais un des trucs que j'ai en tête, c'est que je me suis mis à jouer de manière un peu plus professionnelle au backgammon. Tu sais, tu connais ce jeu qu'on a tous eu, tu vois, quand on était petit? Bah, en fait, c'est un jeu qui, au niveau analytique, peut t'emmener très très loin. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire un certain nombre de tournois, j'ai même fait les championnats de France. Tu vois, je me suis amusé à faire ce genre de choses et à l'analyser, à essayer de retourner le sujet dans tous les sens. Et c'est hyper intéressant parce que
il y a une vraie stratégie.
Ah, il y a une stratégie.
C'est marrant parce que moi j'adorais ça quand j'étais petit. J'ai jamais vu la dimension stratégique.
Ah oui, c'est pas les dames.
Un peu comme aux échecs, t'apprends un peu des entrées, des trucs et tu reconnais des schémas au fur et à mesure. Moi j'en ai pas fait autant que toi, mais je me suis rendu compte que le backgammon pouvait revenir. Il y a des gens qui jouent énormément. Après, ça repasse un peu. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais effectivement, c'est un truc beaucoup plus... Bah, je pense que ça fait partie de question de concentration.
Ouais. En fait, si tu veux, avant qu'il y ait la data, le backgammon, il y avait des mecs qui avaient des théories sur le sujet où ils ne savaient pas trop pourquoi ils étaient meilleurs que d'autres. Là, maintenant, chaque coup... C'est un jeu fini, le backgammon. Mmh. Donc, chaque coup, il y a une analyse de l'ordinateur qui peut te dire qu'il faut mieux faire ça que ça, tu vois. Donc, tu as des analyses hyper profondes hein, sur le sujet. Et puis, quand tu vois des champions, c'est assez impressionnant.
Et dont les théories peuvent être extraites du backgammon pour s'appliquer à la vie.
Je pense qu'il y a
chercher l'universel.
Ah, dans la philosophie, ouais. C'est bien. C'est notre petit moment.
Il y en a une qui pourrait s'impliquer, c'est la unfair advantage, on peut dire. Si tu veux, parfois, le backgammon, ça peut arriver que tu es face à une personne... Moi, j'ai battu le 30e joueur du monde. Mais il est 1000 fois meilleur que moi. Mais je l'ai battu. Donc, si tu veux, les dés ont fait que la situation fait que j'ai quand même une chance, tu vois. Au tennis, tu joues contre Federer, t'as aucune chance. Tu mettras pas un point. Aux échecs, tu joues contre un champion, tu gagneras pas non plus. Au backgammon, si. Il a juste 80% de chance et toi, t'as 20%. Tu vois ce que je veux dire?
C'est les éléments qu'on maîtrise pas.
Exactement.
J'ai une question qui a pas de jingle. On l'a appelée la question Pascal Lorne. T'en parlais tout à l'heure, la question plafond de verre. Mais ça te parlera sûrement. Il disait, on a tous un plafond de verre. Et la question, c'est quoi le plafond de verre que t'as dû faire sauter pour en arriver là où t'es? Et est-ce qu'il te reste? C'est le deuxième effet cool. Est-ce qu'il te reste un plafond de verre sur lequel tu travailles encore?
J'ai senti plusieurs plafonds de verre dans notre développement, dans le développement de talent. Je pense que c'est logique. Tu crées une organisation, un business, des stratégies d'acquisition, et puis elles marchent de 0 à 5 millions, ou de 5 à 10 millions, et puis ensuite, faut changer, quoi. Donc, ce truc-là, je m'y suis habitué à jamais prendre pour acquis que quelque chose ne marche, que quelque chose marche. Après, au niveau personnel, j'ai pas eu l'impression d'être face à des plafonds de verre. J'ai l'impression d'essayer de m'adapter au changement de la vie assez régulièrement. Tu vois ce que je veux dire?
Si on se projette un peu plus loin, il y a le Jonathan Azoulay d'aujourd'hui. Il y a tout le passé qu'on a forcément qu'en partie évoqué. Et puis il y a le Jonathan Azoulay de demain. Et on a une question de quelqu'un que tu connais bien aussi pour toi là-dessus.
Vous avez un message?
Bonjour Jonathan, c'est Audrey de chez Vantech. J'espère que vous avez eu le temps de parler de ton leadership dans ce podcast parce que c'est une des choses qui m'impressionne le plus chez toi. Et je passe à ma question. Ma question est la suivante. Voilà, depuis 2009, tu navigues dans l'univers du HR Tech, qui est un univers qui est connu pour être compliqué parce que cyclique et dépendant de la macroéconomie. Est-ce que tu songes un jour à changer de secteur et si tu envisages une prochaine aventure, dans quel secteur tu la monteras?
Merci Audrey pour cette question. Super intéressant. Évidemment, franchement, je pense que après mon aventure talent, je dirais probablement au revoir au marché des HR. J'ai fait quand même un gros tour. 20 piges, je pense que ça suffira. Et comme beaucoup de gens qui ont bossé dans la tech, je m'intéresse bizarrement à des modèles qui sont plus palpables. J'en ai quand même vendu.
Tu veux aller planter des salades ?
Ben, peut-être pas planter salade, mais par exemple les modèles industriels, ils m'intéressent. J'aime beaucoup ça. Et puis, je me suis découvert une fibre un peu plus sur les sujets impact que ça pouvait l'être les années précédentes. Donc aussi, dans un chemin comme ça.
En tout cas, c'est pas ta dernière boîte.
On en parlera.
Tu voulais revenir sur le passé, Olivier ?
Non, mais je trouvais que c'était intéressant aussi de redire un peu plus précisément, dans la mesure de ce qui est partageable, d'où vient cette fibre entrepreneuriale ? Est-ce que tu es né entrepreneur ou est-ce que tu es devenu entrepreneur ?
C'est une super question parce que, en fait, tu sais, quand ça a commencé à bien marcher pour moi, il y avait... Je tiltais, il y avait des gens qui me disaient « Bravo, quel courage !» Je sais pas si on t'a déjà dit.
Bah oui, bien sûr, oui, parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Moi, j'aimerais bien être entrepreneur, mais c'est pas le bon moment, c'est pas le bon marché,
c'est
pas
hyper dur,
j'ai pas la bonne idée, c'est difficile, l'argent est cher. »
Et en fait, ce qui me faisait
tellement des...
Mais bien sûr. Et en fait, ce qui me faisait tilter sur le « quel courage », sur le mot « courage », c'est que je me disais « Tiens, c'est bizarre, parce que moi, ça ne m'a fait appel à aucun courage. » Je n'ai pas la sensation que j'ai dû faire appel à du courage. Et pourquoi ? Pour répondre à ta question, c'est que je pense que je suis né dans cet état d'esprit-là. Moi, j'ai toujours vu mon père entrepreneur. Le soir, il avait sur un genou son ordinateur et sur l'autre, il y avait moi, tu vois. Donc,
ah oui, d'accord. Mais c'est parce que ça, c'est une question qu'on n'avait pas posée, mais qui était la suivante. Hein. C'est effectivement, est-ce qu'il y a eu de l'inspiration au sein du foyer au sein du foyer du petit enfant, du petit John. Et donc là, bah, on a la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui t'ont inspiré, en dehors de peut-être la motivation qu'a su insuffler ton père par l'exemple ou l'imitation ?
Bah, écoute, j'ai une famille qui est globalement une famille d'entrepreneurs, hein, des commerçants, des entrepreneurs. Enfin, nous, on est une famille où on a émigré... Donc d'Algérie, du Maroc, dans les années, début des années 60, années 50 et années 60. Et donc, si tu veux, ils sont arrivés une main devant, une main derrière.
Ils ont dû reconstruire.
Ils ont reconstruit et la plupart sont devenus entrepreneurs, sauf mon grand-père qui, lui, est devenu DRH.
Ah ouais.
Ça, c'est marrant.
C'est là que t'as croisé les deux, quoi.
Ça s'appelait, exactement, ça s'appelait directeur du personnel à l'époque, le mot DRH c'est n'existait vrai. Pas. Et le seul critère de sélection, c'était le nom de l'école qu'il y avait sur le CV des personnes.
Ouais, c'était plus facile.
C'était plus simple.
Il y a encore beaucoup à faire là-dessus.
Ça a quand même bien bougé. Hein. Après, maintenant, il y a les sujets où j'aime bien m'impliquer. C'est les sujets plutôt d'égalité homme-femme, puisque j'ai la chance d'être au board de Sistar, l'ONG.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Je crois que c'était l'objet de ta carte blanche.
La carte blanche, tu vois, c'est ce petit moment où on se tait. On ferme notre bouche et on te laisse justement pouvoir défendre un sujet, quel qu'il soit, associatif, politique, d'engagement social, etc., ou autre qui te tient à cœur, en articulant ton raisonnement comme tu le préfères et comme tu le souhaites.
Écoute, effectivement, ce sujet, c'est un sujet que j'ai décidé de soutenir, qui est le sujet de l'égalité homme-femme dans les univers professionnels, et notamment donc, dans l'univers de la tech. Il y a plein de points qui sont liés à ça. Tu as le sujet de l'accès au capital pour les femmes, donc de l'entrepreneuriat directement pour les femmes. Et tu as le sujet du bien-être en entreprise pour les femmes, qui est un sujet qui commence à être traité par beaucoup d'entreprises, qui commence à prendre, les gens commencent à prendre conscience de ce qu'est le biais, qui impacte directement, indirectement la carrière des femmes. Un exemple très simple, vraiment un truc... même en tant qu'entrepreneur défendant ses causes, on peut avoir des biais dans notre entreprise, c'est ça qu'il faut qu'on sache. Un exemple très simple, si vous êtes persuadé que vous avez une politique salariale qui est totalement égalitaire, faites quand même le calcul de connaître quels sont les salaires des femmes et quels sont les salaires des hommes. Et vous y verrez sûrement...
À poste équivalent,
évidemment. Et vous y verrez sûrement un léger gap. On s'est posé cette question-là, nous, et on s'est rendu compte qu'en fait, par exemple, à l'époque, on s'était posé la question, c'était que dans notre grille, notamment sur les évolutions salariales, il y avait quand même pas mal d'évolutions qui étaient de salaire qui était défini en fonction de la demande. Et probablement, il y avait, dans notre cas, plus d'hommes qui étaient assez confiants pour demander que de femmes.
Il n'y a pas que chez vous, là, pour le coup.
Ouais, ouais, la question de la confiance et la méfiance, bah, c'est une posture, effectivement, bah, tu l'as bien dit, hein, qui est la posture dans la culture d'entreprise, de la place qu'on donne. Mais si la femme, à mon avis, dans ce que j'ai pu observer, elle part avec un handicap culturel subi, hein, c'est pas sa faute, mais dès le départ, c'est un point. Même dans n'importe quelle culture d'entreprise, a priori, vous êtes une entreprise ouverte, libérale, etc. Et si tu dis que ça a été le cas, moi, je trouve que c'est quelque chose de frappant, donc très intéressant d'y travailler.
Ouais. Ouais.
Est-ce qu'il y a aussi un sujet autour du congé maternité qui fait prendre du retard sur l'évolution salariale?
Je ne sais pas, j'ai pas de preuve là-dessus. C'est sûr que le congé maternité a toujours eu un impact sur la capacité des femmes à pouvoir structurer leur carrière, mais j'ai aucun élément qui me permette de justifier l'impact.
Tu parles d'impact?
Waouh. La claque.
Parce que ça, c'est un moment d'impact. Ouais.
Alors bon, je crois que tu as déjà bien parlé d'une bonne claque professionnelle dans les difficultés entrepreneuriales que tu as pu rencontrer avant de te remettre en selle sur Talentilieu. Mais tu vois, tout ce qui nous intéresse, c'est au-delà de ton caractère très positif, et c'est souvent le cas, hein, des entrepreneurs qui parlent en bien, parfois peut-être parfois trop en bien, et qui peuvent avoir du mal à parler des problèmes qu'ils ont eus. Alors toi, tu n'as pas eu ce problème. Est-ce qu'il y a une claque en particulier, professionnelle ou personnelle, que tu pourrais mettre en avant pour démontrer qu'effectivement, c'est pas toujours un chemin facile, mais que l'important, c'est de s'en relever?
Écoute, la claque, c'est celle qu'on a vécue en 2023. Je veux dire, on a fait une restructuration énorme, on est passé à côté d'un mur qui est arrivé, on a redesigné l'ensemble de la stratégie de la boîte, on a réduit la voilure énormément. Enfin bref, pour moi, ça restera, je pense, toute ma vie, cette année-là, qui a été l'année critique là-dessus. Après, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu ce besoin de montrer que ça va bien, déjà dans le sujet de la relation client, peut-être, ou la relation investisseur. Franchement, je pense que je suis sorti complètement de ce truc-là. Je m'en fous complètement.
Donc, tu dis plus les choses telles qu'elles sont?
Ouais, enfin, il y a pas de, enfin voilà.
Avec l'idée que c'est la vie normale d'une boîte.
Mais il y a plus d'intérêt à échanger. Le boulot de CEO est un boulot qui génère une solitude énorme, qui génère beaucoup de frustration, et je pense que un des moyens de le surmonter, c'est de réussir à avoir du retour d'expérience d'autres CEO, de l'échange sincère, quoi, tu vois.
Et en ça, est-ce que tu participes toujours dans des organisations telles que Transital, le Galion ou d'autres? Qu'est-ce que tu trouves comme plaisir et intérêt?
Le Galion, il y a un vrai... où je me suis beaucoup impliqué. Moi, ça m'a aidé à plusieurs étapes critiques à pouvoir réfléchir, prendre la décision, avoir le recul. C'est vraiment très fort de pouvoir se retrouver uniquement avec d'autres personnes qui sont dans le même contexte que toi ou dans le même rôle que toi, avec les mêmes décisions que toi.
Et qui sont peut-être déjà passés.
Qui sont déjà passés par là pour certains, exactement.
Bien sûr.
Exactement. Et quand c'est un environnement qui est safe, où les gens sont prêts à céder, je sais que moi, quand j'ai repris, je me suis posé des questions stratégiques importantes. Il y a des gens... notamment Rudel et d'autres qui ont pris le temps, quoi, tu vois, qui ont pris le temps de m'aider.
De partager leur expérience.
Rudel, c'était intéressant, lui, il avait repris les rênes de Criteo aussi dans un contexte aussi un peu spécifique. Il y a des gens comme ça qui ont déjà vécu des expériences qui valent le coup d'être partagées.
Toutes les bonnes choses ont une fin, et que même 40 Nuances The Next a une fin, malgré tout, on ne se quitte pas sans... rubrique Sista, que tu as évoqué tout à l'heure.
Alors, donc, ça tombe bien, oui, c'est une de tes préoccupations, ouais. L'équilibre homme-femme, et on s'est rendu compte que, tu vois, dans le French Tech 120 ou dans le Next 40, il y a très très peu encore de femmes entrepreneuses, et dans le baromètre qu'on fait France Digital avec EY chaque année, on est autour de 10, voire moins parfois, en termes de femmes entrepreneurs, leur CEO ou co-founder. D'ailleurs, je dois dire que dans le portefeuille 2050, on a refait les calculs, on est à 50-50.
Oh, c'est beau.
Avec donc, en comprenant l'ensemble des cofondateurs, avec un vrai statut de cofondateur, etc. ce qui est un peu unique au monde.
C'est unique.
Mais c'est une façon de faire, et puis c'est aussi un peu par chance.
C'était recherché, non?
On cherche l'alignement dans la diversité, et c'est une des diversités, pas la seule, et on n'est pas bon sur toutes les diversités, mais celle-ci, oui. Alors ce moment de la rubrique Sista, c'est de dire, nous on veut et on tient à aussi avoir dans le podcast 40 nuances de Sista, des entrepreneurs ou des entrepreneureux, entrepreneuses, entrepreneureux, au féminin. Et c'est intéressant quand elles sont non pas choisies seulement par nous, mais aussi par des entrepreneurs à succès comme toi. Est-ce qu'il y en a une que tu mets en avant?
Ah oui, Agathe, on parlait du Galion, voilà. Mais voilà, Agathe, elle fait partie de ces gens.
On n'a jamais reçu ici, donc ce sera un plaisir.
C'est vrai qu'Agathe, c'est à la fois une entreprise et une association, et c'est une femme aux multiples talents.
Exactement.
Et on n'a jamais reçu, paradoxalement. Mmh.
Tu pourrais, je pense que ça serait très intéressant et ça serait très inspirant.
L'idée, c'est justement de l'inviter, grâce à toi, et même de te permettre de lui poser une question.
En fait, si tu veux, Agathe, c'est la personne pour moi qui a le mieux suivi et compris la définition de ce qu'est un entrepreneur. Parce que vraiment, elle les côtoie au quotidien depuis des années. Elle nous a vus nous développer. C'est-à-dire quand le Galion a démarré, on était tous à un stade très, très précoce. Et puis maintenant, il y a des exités, des gens qui ont remonté des bois, des gens qui sont devenus investisseurs. Enfin, il y a de tout. Donc, elle a vu les évolutions. Et je pense que la meilleure question qui pourrait aider les auditeurs, ça serait lui demander pour elle, c'est quoi la définition de l'entrepreneur?
On va lui demander.
Question ouverte. On ne peut pas répondre par oui ou par non. On va être obligé de développer.
Un immense merci, Jonathan.
Avec grand plaisir, Thomas. Merci à toi, Olivier.
Merci, Jonathan, d'avoir été aussi franc.
Merci pour votre écoute. 40 nuances de Next vous fait vivre chaque semaine les coulisses des plus grandes réussites de la tech française. Vous pouvez donc nous laisser des petites étoiles sur vos plateformes préférées ou un commentaire. Et bien sûr, vous abonner pour ne manquer aucun épisode.